Bonsoir.
Alors, la dernière fois, on avait vu les artistes, les œuvres de la seconde moitié du XIXe siècle, et on avait vu que durant cette période, la tradition académique tendait à se fissurer et apparaissaient des artistes, des œuvres qui tendaient à décomposer, à recomposer la réalité. C'est sur ce terreau-là que vont naître les avant-gardes au début du XXe siècle. Toutes les innovations du XIXe, elles préparent l'avènement des avant-gardes. Aujourd'hui, la fois prochaine, on va s'attarder sur ces avant-gardes-là. Aujourd'hui, on va aborder le fauvisme et le cubisme. Le fauvisme, parce que c'est la libération de la couleur qui va prendre une valeur nouvelle, une valeur expressive, capable de suggérer le mouvement, l'émotion. C'est vraiment la primauté de la couleur, le fauvisme. Et puis le deuxième mouvement qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le cubisme. Le cubisme, c'est là pour le coup, c'est pas vraiment la primauté de la couleur, on va dire que c'est la primauté de la forme. Mais la forme déstructurée et restructurée à nouveau. Le cubisme, c'est aussi le fruit de la modernité. C'est pas un hasard si le cubisme émerge au début du XXe siècle. Le cubisme, c'est le fruit de la modernité. Il y a tout un contexte industriel qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte notamment la mécanisation qui frappe l'imaginaire, qui va tenir un rôle prépondérant dans la recherche d'expressions plastiques nouvelles, d'expressions plastiques inédites. Le cubisme va récupérer des fragments isolés de la réalité et va les recomposer à travers de multiples points de vue. Et justement, en choisissant de multiples points de vue, le cubisme rompt avec la tradition picturale des siècles précédents, la tradition picturale depuis la Renaissance en fait, avec le point de vue unique. Ben là justement, il y a une multitude de points de vue différents. Et du coup, nous en tant que spectateurs, on perd nos repères et on doit faire tout un travail intellectuel pour réinterpréter ces œuvres-là. Alors on va débuter avec le fauvisme. Bon, le fauvisme, c'est un mouvement qui n'apparaît pas par hasard. C'est le fruit de différentes innovations qui ont été réalisées tout au long du XIXe siècle, et notamment l'impressionnisme. L'impressionnisme, alors là, j'ai choisi une toile de Claude Monet, Le Parlement, coucher de soleil. Bon, c'est une toile emblématique de l'impressionnisme. D'ailleurs, Claude Monet a réalisé toute une série du Parlement. On est à Londres à ce moment-là. Et j'ai choisi cette toile à dessin dans la mesure où, dans la partie supérieure, dans le ciel, il y a déjà une volonté d'aller chercher des couleurs un peu inédites, un peu violentes. Et de ce point de vue-là, on voit bien le fauvisme, la dette qu'il a vis-à-vis de l'impressionnisme. Alors, les fauves vont adhérer à cette leçon impressionniste. Néanmoins, ils vont la dépasser. Ils aspirent à quelque chose de beaucoup plus expressif. Et ils n'adhèrent pas forcément à cette volonté de saisir le fugitif, l'instantané. Cette volonté qui était si chère aux impressionnistes, les fauves vont essayer de la dépasser. Autre influence, celle de Paul Gauguin. Alors j'avais abordé cette œuvre justement lors de la première séance. Paul Gauguin, il va être très intéressé par les couleurs pures. Ce qui l'intéresse, Paul Gauguin, c'est de faire une peinture symbolique et donc de choisir des œuvres qui sont capables de suggérer le rêve, la vision de l'artiste. Et j'avais choisi de vous présenter cette œuvre lors de la première séance parce qu'elle est assez emblématique de cette démarche-là. Dans la vision du sermon de Paul Gauguin, l'artiste cherche à représenter la vision du sermon pour ces femmes bretonnes, d'où des couleurs un peu irréalistes et notamment ce sol rouge qui est très violent, très virulent. Autre influence, celle des nabis. Là aussi, j'en avais parlé lors du premier cours. Le mot nabi, ça vient de l'hébreu prophète. C'est celui qui reçoit la vérité, une vérité de l'au-delà. Et les nabis vont être très influencés par la leçon de Paul Gauguin et vont chercher à travailler sur la couleur. Alors, l'œuvre emblématique des nabis, c'est le talisman de Paul Sérusier. En fait, c'est une ébauche qui est conservée au musée d'Orsay. Et justement, cette ébauche avait été réalisée en compagnie de Paul Gauguin. Ça avait été l'objet d'une leçon magistrale entre le maître et l'élève, entre Gauguin et Sérusier. Et Sérusier, bien sûr, avait promu cette leçon initiatique quasi magique. Et donc, je suis un petit peu déroutée. Voilà. Et donc, oui, Paul Sérusier avait vraiment, par la suite, auprès du Cénacle d'artistes, auprès de son Cénacle d'artistes, avait promu donc cette leçon avec Gauguin. Autre artiste du mouvement Nabi, c'est Maurice Denis, dont je ne vous présenterai pas d'œuvre aujourd'hui, mais Maurice Denis également a continué cet intérêt pour la couleur. Et Maurice Denis avait une phrase très célèbre, je la cite, « Un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de formes et de couleurs, en un certain ordre assemblé. » Donc toute cette recherche Nabi, toute cette recherche sur les couleurs, sur le côté expressif, suggestif de la couleur, toute cette recherche-là va influencer le fauvisme. Autre influence, celle de Van Gogh. Bon, bah, Van Gogh, il incarne l'expressif, l'expérimental, et je pense notamment à certaines œuvres qui sont saturées de couleurs, presque hallucinatoires, et notamment l'italienne, conservée au musée d'Orsay. Bah, quand on voit cette œuvre, on voit la dette que les fauves vont avoir auprès de Van Gogh, dans la mesure où il y a ce choix de couleurs très vives, très détonantes, notamment ici ce jaune, et puis aussi tous les rouges et les orangés du vêtement de cette italienne. Alors la dette de Van Gogh, elle va être aussi très revendiquée en Allemagne pour un mouvement qu'on appelle l'expressionnisme. Les expressionnistes allemands vont clairement être tributaires de la vision de Van Gogh et vont revendiquer cet héritage pictural. Les fauves, pas forcément, même si quand on voit les œuvres de Van Gogh, le lien se fait de lui-même. Et enfin, dernière influence, celle du néo-impressionnisme. Alors, pas tous les néo-impressionnistes. Georges Seurat, qu'on a vu lors des dernières séances, n'a pas forcément de lien avec les fauves. Par contre, Paul Signac, lui, oui. Paul Signac, d'abord parce qu'il a rencontré certains fauves. Matisse, par exemple, a travaillé, a fréquenté Paul Signac. Et ensuite, parce que Paul Signac, si au début de sa carrière, il est très proche des recherches initiées par Georges Seurat, donc il adopte cette technique divisionniste, par la suite, il va essayer de s'en affranchir, de s'en émanciper, il va essayer de libérer sa touche, et surtout, il va essayer de travailler sur les couleurs. Et Saint-Tropez, la calanque, est assez symptomatique de cette nouvelle recherche. On voit notamment au niveau de la calanque et au niveau de la végétation qu'il y a un goût certain pour les assemblages de couleurs un peu détonnants, avec ses rouges, ses jaunes, ses bleus et ses verts. Donc toutes ces influences-là vont être très importantes dans la démarche des fauves. Et alors, hop, je reviens là. Les fauves, l'acte de naissance de cette avant-garde-là, c'est l'automne 1905. C'est le troisième salon d'automne qui est organisé au Grand Palais. Et lors de cette exposition, quelques peintres vont attirer plus précisément l'attention par leur utilisation de couleurs particulièrement vives. Alors, attention, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de programme spécifique. Ce sont des peintres qui ont des démarches au départ assez différentes. S'ils sont réunis dans cette salle-là du Salon d'automne, en fait, c'est le fait du responsable de l'exposition qui avait été frappé par la cohérence des thèmes. Pour la majeure partie, c'était des paysages. Et surtout, ce responsable avait été frappé par justement cette omniprésence de couleurs vives. Et donc, c'est lui qui avait décidé de rassembler ces peintres dans une et même salle. Et évidemment, la critique, quand elle va voir cette exposition, la cohérence va lui taper dans l'œil, bien sûr, et elle va épiloguer là-dessus. Et c'est notamment Louis Vaucel, qui est critique dans la revue Gil Blas, qui s'exclame « Donatello chez les fauves ». Alors pourquoi il s'exclame ça? C'est parce que dans cette salle où il y avait des tas de peintures de ces peintres fauves, il y avait aussi un buste qui était très classique, très académique. Et c'est vrai que ce buste-là tranchait avec la déferlante de couleurs vives qui peuplait cette salle. Et donc, du coup, on va les appeler les fauves. Alors au départ, évidemment, c'est une dénomination qui est extrêmement péjorative. Tous ces peintres-là choquent le public et choquent la critique pour leur utilisation de la couleur qui est très révolutionnaire. On va voir les œuvres de ces peintres fauves. Ce sont des couleurs qui sont très virulentes, très véhémentes et qui cassent la tradition picturale des siècles précédents. Et ça, la critique et le public ne peuvent l'accepter. Paradoxalement, le scandale suscité lors de ce salon d'automne va attirer l'œil des collectionneurs. Et si ces peintres sont conspués par la critique, ils vont par contre taper dans l'œil de ces collectionneurs et vont pouvoir vivre de leur art, parce que ces collectionneurs leur donnent une chance en les finançant. Alors, je disais tout à l'heure que la critique avait été extrêmement virulente par rapport à ces peintres. J'ai justement quelques exemples de ces critiques, notamment Camille Mauclerc. Alors, Camille Mauclerc, c'est l'archétype du critique réactionnaire et relativement désagréable. Et dans un article intitulé « La crise de la laideur en peinture », il dénonce justement cette laideur, cette barbarie des peintres fauves. Et puis il y a un autre article qui m'a semblé intéressant aussi, c'est celui d'Étienne Charles, qui écrit dans Le Petit Dauphinois, je cite, « Il n'est vraiment pas possible que des gens comme messieurs Matisse, Derain, Manguin, Lebeau, Bouche, Vlaminck et beaucoup d'autres qui composent en somme la majorité à ce salon ne soient pas des pinces sans rire admirables, s'offrant notre tête pour leur plus grande joie ou des démons caractérisés. Il y a là des paysages ou des figures qu'un enfant de 6 ans signerait. Il y en a qu'il se refuserait à reconnaître comme pouvant sortir de sa main, car, je n'exagère rien, il y a de telles toiles dont il est absolument impossible de dire ce qu'elles représentent. » Donc on voit justement que la critique ne comprend pas ces œuvres-là. Autre élément qui ne joue pas en faveur des fauves, c'est que certains sont assez engagés politiquement. On verra tout à l'heure le cas de Maurice de Vlaminck notamment, et là aussi, ce côté un peu virulent, politiquement incorrect, va de pair avec la soi-disant anarchie artistique de ces peintres. Donc ils sont vraiment très critiqués à leur époque. Alors on va les voir justement, ces peintres, un à un, et on va commencer par Henri Matisse. Henri Matisse, c'est un peintre qui naît en 1869, il meurt en 1954, et en fait il arrive à l'art totalement par hasard. Au départ, Matisse se destine à une carrière de juriste, et puis au cours d'une convalescence, en fait il est opéré de l'appendicite, il s'initie à l'art. Et là c'est le choc, et il décide de se consacrer véritablement à la peinture. Donc il part à Paris, il a une formation très classique au départ, hein. Il suit les cours de l'école des arts décoratifs, et puis il suit également les cours de l'Académie Julian, et il étudie notamment auprès de Gustave Moreau. Alors Gustave Moreau, c'est le grand peintre symboliste du XIXe siècle. Donc quand on voit une toile de Gustave Moreau, on se demande a priori quel est le lien avec la débauche de couleurs des peintres fauves. Et en fait, Gustave Moreau, d'un point de vue pédagogique, est assez fabuleux, dans le sens où il ne cherche pas à imposer cette doctrine symboliste à ses élèves, au contraire. Il cherche à leur montrer leur propre voie. Il faut que ses élèves s'émancipent de toute la tradition, s'émancipent de toutes les leçons pour se trouver eux-mêmes. Et Gustave Moreau va en fait avoir un rôle très important dans la carrière de ses élèves, parce qu'il les pousse à s'émanciper de toutes les leçons apprises pour créer leur propre art. Alors, Matisse, il est influencé par l'impressionnisme, puis par le néo-impressionnisme. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il fréquente Paul Signac à plusieurs reprises. Et il fonde son œuvre sur la célébration de la couleur. Et justement, le fauvisme, petit à petit, va lui offrir des possibilités d'expression inédites. Le fauvisme, pour Matisse, c'est la liberté. La liberté à l'état pur. Il le dit lui-même, je le cite, « Le fauvisme secoue la tyrannie du divisionnisme. On ne peut pas vivre dans un ménage trop bien fait, un ménage de tente de province, alors on part dans la brousse. » Et autre citation de Matisse qui est assez éloquente, donc justement sur sa manière de peindre, je le cite, « Je posais ma couleur, c'était la première couleur de ma toile. J'y joignais une deuxième couleur, et alors, au lieu de reprendre, quand cette deuxième couleur ne paraissait pas s'accorder avec la première, j'en mettais une troisième qui devait les accorder. Alors il fallait continuer jusqu'à ce que j'eusse la sensation que j'avais créé une harmonie complète dans ma toile et que je me trouvais déchargée de l'émotion qui me l'avait fait entreprendre. » En 1905, Matisse séjourne à Collioure. Donc, je l'ai dit, il fréquente Signac, et il fréquente également un autre peintre très important, c'est André Derain. Et André Derain et Matisse vont nouer une sorte de dialogue artistique durant cet été 1905. Et ce séjour-là, à Collioure, va être fondamental pour la naissance du fauvisme. La plupart des toiles qu'ils exécutent cet été-là seront exposées lors du Salon d'automne de 1905. Et donc, petit à petit, s'ouvre cette voie vers la libération de la couleur. Alors, le tableau que j'ai choisi de présenter en premier, c'est Luxe, calme et volupté. C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay, qui est peint entre 1904 et 1905. Donc à ce moment-là, il est déjà dans le sud. Donc c'est une époque où le néo-impressionnisme se libère un peu du carcan scientifique. Bon, je l'avais dit la dernière fois, le néo-impressionnisme au départ, donc c'est l'œuvre de Georges Seurat, et Georges Seurat, il essaye d'appliquer en fait des théories scientifiques à la peinture. Donc au départ, il y a un côté un peu artificiel dans cette démarche artistique. Et justement, au début du XXe siècle, grâce à Paul Signac notamment, eh bien, le néo-impressionnisme s'émancipe de ce carcan scientifique et atteint plus de liberté. Donc là, ici, dans cette toile-là, on reconnaît évidemment la patte néo-impressionniste dans cette peinture en mosaïque, en quelque sorte. Mais déjà, on voit qu'il y a une utilisation de la couleur totalement inédite. Et c'est très visible, notamment dans la partie inférieure, au niveau de cette plage, et au niveau des personnages qui sont assis, couchés ou debout sur cette plage. Les femmes, notamment, présentent des alliances de couleurs très différentes, du jaune, du rose, du vert. Donc, c'est des couleurs un peu étonnantes, un peu détonnantes, qui voisinent là et qui, finalement, sont très harmonieuses. Petite anecdote, c'est un tableau aussi qui illustre un des thèmes très chers à Matisse, à savoir le bonheur de vivre et l'harmonie. Il y aura des tas de toiles qui poursuivent ce thème-là. La femme au chapeau. Alors, la femme au chapeau, c'est un tableau qui est peint en 1905 aux États-Unis, à San Francisco. Et alors, c'est un tableau justement qui est exposé lors du salon d'automne. Et alors, l'œuvre va faire un scandale tonitruant. C'est un tableau assez emblématique. Des recherches fauves, donc là on a une pléthore de couleurs criardes, entre guillemets, alors notamment au niveau du visage, Matisse assemble sans complexe des couleurs très différentes et des couleurs a priori choquantes. Ce qui a choqué également le public et la critique à cette époque, c'est le chapeau. Le chapeau, si vous le prenez individuellement, ça ressemble plus du tout à un chapeau, c'est une masse compacte de formes, de couleurs. Quand on la voit, cette toile, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais à l'époque, Le portrait de cette femme a été extrêmement dénigré. Le bonheur de vivre, donc toujours cette thématique du bonheur et de l'harmonie, c'est un tableau qui est peint entre 1905 et 1906, et c'est un tableau justement qui va être critiqué par Paul Signac. Donc Paul Signac, chantre du néo-impressionnisme, qui au départ prend Matisse sous son aile, et qui par la suite estime que l'œuvre de Matisse est trop choquante, et donc il la désapprouve, il la dévalorise. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. Alors là, c'est une citation, en fait, il se confie à Charles Engrand. Charles Engrand, c'était aussi un peintre néo-impressionniste. Et donc Signac, après avoir vu cette œuvre, écrit, je le cite, « Matisse, dont j'ai aimé les essais jusqu'à présent, me semble s'être complètement fourvoyé. Sur une toile de 2,5 mètres, il a entouré des personnages étranges, d'une ligne épaisse comme le pouce, puis il a recouvert le tout de teintes plates, nettement définies, qui, si pures soient-elles, paraissent dégoûtantes. » Ce que Signac désapprouve ici, ce sont les larges aplats de couleurs qui marquent donc cette nouvelle voie de Matisse. Le chromatisme ici sert le dessin de Matisse. Ce chromatisme, il est tout entier au service de cette idée de bonheur et d'harmonie. On voit ces personnages, ces couples étendus dans ce paysage féerique, édénique, et tout est au service justement de ce bien-être, de ce bonheur. Et de fait, il émane une joie de ce tableau. Et ce qui prime ici, c'est la couleur. Le dessin est au service de la couleur. Vraiment, la couleur est prépondérante. Et c'est tout à fait visible dans la partie droite du tableau. On voit un berger qui est en train de charmer les chèvres, et on voit trois chèvres. On voit bien les deux chèvres, qui sont bien dessinées, et puis la troisième chèvre, derrière cette espèce de tronc d'arbre bleu, elle est simplement esquissée d'un trait. Donc vraiment, la couleur, l'orange de cette chèvre, prend le dessus, et le dessin devient secondaire. Et justement, cette stylisation, elle est très mal vue. Elle va être critiquée. Louis Vaucel, encore lui, écrit, donc en 1906, « Il ne faut pas confondre simplification et insuffisance, schématisme et vide. » Donc on le voit, les critiques ne comprennent pas cet art nouveau et cet art éclatant. L'autoportrait, qui est conservé à Copenhague, donc là on a des couleurs beaucoup plus sourdes, mais on trouve néanmoins un usage un peu étonnant. Et notamment au niveau du visage, eh bien, Matisse assemble là encore des couleurs qui, de prime abord, ne, semblerait pas forcément très harmonieuse. Et c'est notamment visible au niveau du front et au niveau des joues. Eh bien, il y a du blanc, il y a du beige, du rose, du bleu. Bref, des couleurs qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de voir sur un portrait. Au passage, je parlais tout à l'heure de la grande leçon de l'impressionnisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais certaines toiles de Renoir qu'on avait vues, Renoir déjà, utilisait des fois des assemblages de couleurs un peu détonnants pour justement figurer la chair humaine. Et d'ailleurs, ça avait été vilipendé à l'époque. Nuit bleue, souvenir de Biskra, en fait, ça, c'est la fin de la période fauve de Matisse. La période fauve, elle va être extrêmement courte en fait. Hein. Elle va durer 2-3 ans grand maximum. C'est vraiment un mouvement très éphémère, très court. Et là déjà, Matisse reprend goût au dessin. Et la ligne, elle est omniprésente dans ce nu qui est conservé aux États-Unis et qui est peint finalement 2 ans seulement après le salon d'automne de 1905. Quoi qu'il en soit, le fauvisme, ça a été une libération pour Matisse. Bon, par la suite, il va explorer de nouvelles voies, mais il aura toujours une dette vis-à-vis de ces quelques années fondamentales. Et d'ailleurs, il le dira lui-même, le fauvisme a constitué le fondement de tout. Donc cette libération de la couleur a été prépondérante, fondamentale dans l'itinéraire artistique de Matisse. Autre peintre, André Derain. André Derain, c'est un peintre qui naît en 1880, il meurt en 1954, et donc je l'ai dit tout à l'heure, il fréquente Matisse. Hein. Tous deux ont été à l'Académie Julian. Ensuite, durant l'été 1905, donc Derain et Matisse collaborent à Collioure. André Derain, c'est aussi un des proches de Maurice de Vlaminck, qu'on abordera tout à l'heure. En fait, cette cohérence fauve, entre guillemets, c'est le fruit de démarches similaires, hein, une recherche sur la couleur, mais c'est aussi le fruit d'amitié. Tous ces peintres fauves se fréquentaient. Soit ils avaient subi un enseignement commun, soit ils étaient devenus amis au hasard de leur recherche. Alors, Port de Pêche, Collioure, bah, c'est emblématique de cet été 1905, hein, passé dans le sud de la France, cette étape-là dans le sud a été vécue par Derain également comme une véritable libération. Et là, on le voit bien, cette utilisation de la couleur totalement libre, totalement libérée des contraintes du réel. On a une orgie de jaune, de rouge, d'orange, qui contraste avec les tons très froids de la mer, hein, qui assemble des bleus et des verts. Et Derain va justement être très... comment dire, très séduit par ces contrastes de couleurs, de tons chauds et de tons froids. Là encore, une toile peinte durant cet été 1905, Port de Collioure, le cheval blanc. Bon, là, il y a quand même aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi cette toile, il y a quand même encore une dette vis-à-vis du néo-impressionnisme, hein, toujours cette touche en mosaïque. Et là encore, le pont de Waterloo, je crois que cette toile, je l'avais présentée lors de la première séance. C'est un tableau qui est peint en 1906, il est conservé à Madrid. Et là encore, on retrouve hein, cette touche saccadée qui est l'héritage hein, des travaux de Paul Signac. Là, l'influence de Paul Signac, elle est très nette. La même année, il peint l'Estac. C'est un tableau qui est conservé à la Chaux-de-Fonds. Il est peint donc en 1906, je l'ai dit. Et là, on retrouve donc cette alliance de ton chaud, de ton froid, une alliance qui peut paraître brutale et qui, de fait, paraît brutale et subversive aux critiques de l'époque. Derain va être très prolifique hein, durant cette période passée dans le sud de la France. Il va peindre de très nombreux paysages et ces paysages vont être exposés en assez grand nombre hein, lors de ce salon d'automne de 1905. Et puis par la suite, Derain va s'éloigner du fauvisme. En fait, il va avoir différentes périodes. Il a une période fauve, ensuite il s'achemine vers le cubisme et à la fin de sa vie, il va peindre des choses très éclectiques, très classiques. Il va s'inspirer de l'art antique, de l'art médiéval. Et finalement, on est assez loin des recherches un peu révolutionnaires qui mènent au début du XXe siècle. Si j'ai choisi cette toile-là, c'est qu'elle fait bien la transition entre fauvisme et cubisme. Quand on voit ces nus, donc on retrouve ce goût pour la couleur, hein, c'est un jaune pétaradant, mais on retrouve aussi un goût certain pour la géométrisation des formes. Et là, la leçon de Cézanne, elle n'est pas loin. Quand on voit notamment le nu qui est au centre, eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très géométrique, de très athlétique. Donc on est très loin de cette recherche des années fauves totalement axée sur la couleur. Là, à nouveau, les personnages, les formes prennent une certaine densité, un certain volume. Alors, autre artiste, alors je l'évoquais tout à l'heure, c'est Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck, c'est un peintre qui naît en 1876, il meurt en 1958, et c'est un autodidacte. Et Maurice de Vlaminck, c'est vraiment l'archétype de, de l'artiste un peu révolutionnaire, un peu anarchiste, même totalement anarchiste. Il aspire à une peinture libérée, instinctive, et justement le fauvisme va répondre à ses ambitions. Donc Vlaminck, il a une démarche assez violente, hein. Il prend des couleurs pures, généralement directement sorties du tube, et on le voit bien à sa touche, il y a quelque chose de très véhément, de très violent là-dedans. Par la suite, il aura une peinture beaucoup plus apaisée. Et alors justement, Maurice de Vlaminck, par rapport à cette période fauve, dira lui-même « Ce que je n'aurais pu faire dans la vie qu'en jetant une bombe, ce qui m'aurait conduit à l'échafaud, j'ai tenté de le réaliser dans la peinture en employant la couleur pure au maximum. J'ai satisfait ainsi à ma volonté de détruire de vieilles conventions, de désobéir, afin de recréer un monde sensible, vivant et libéré. » Alors Vlaminck, il avait un atelier à Chatou qui partage momentanément avec André Derain. Et en fait, Chatou et tous les bords de Seine, Chatou c'est vers Paris en fait, ça va être des thèmes extrêmement fréquents dans son œuvre. Donc ça c'est un tableau qui est peint en 1904, qui est conservé à Chicago. Et autre toile peinte à cette même époque, c'est le pont de Chatou, qui est conservé aux États-Unis également, qui est peint en 1905. Et tout à l'heure, je parlais de cette touche très, très virulente, très, très emportée. Elle est entièrement au service du sujet. Là, notamment, cette touche un peu violente, elle accompagne le mouvement de la toile, hein, cette route qui bifurque vers le pont. Et toujours, là encore, des contrastes de couleurs assez forts, hein, entre des tons chauds, le rouge, l'orange, l'ocre, et des tons froids avec ces bleus et ces verts. Autre artiste faux, c'est Émile Auton-Frise. C'est un peintre qui naît en 1879, il meurt en 1949. Et lui aussi, au départ, il a une formation très classique. Il étudie à l'école des beaux-arts du Havre. Il est originaire du Havre, en fait. Et ensuite, il se rend à Paris et donc il suit les cours de la traditionnelle école des beaux-arts. Et au départ, il est influencé par l'impressionnisme et il va évoluer au contact de Matisse. Donc on retrouve là toujours hein, cette influence due à l'amitié entre ces artistes tous ces dialogues artistiques noués entre ces différents artistes vont faire que ce mouvement, qui n'en est pas vraiment un, est très cohérent et très homogène. Bah, les caractéristiques de ces œuvres, généralement, c'est des couleurs très vives, moins saturées néanmoins que chez de Vlaminck. Et puis, ces lignes tournoyantes, tourmentées, ça, c'est vraiment une caractéristique de son œuvre. Et le paysage à La Ciotat est une toile assez emblématique. C'est un tableau qui est peint en 1907. Il est conservé à Troyes. Et tout n'est que couleur et tout n'est que mouvement dans ce tableau. Et notamment cette montagne, hein, cette pointe du Capucin au centre, eh bien, elle est comme mouvante, vibrante, ce côté très mobile, presque vivant, il est tout entier permis par l'utilisation de la couleur et par l'utilisation de ces lignes ondoyantes. Autre artiste dont je voulais parler pour le fauvisme, c'est Georges Braque. Georges Braque, on le connaît pour ses œuvres cubistes, mais en fait, il a eu une période fauve très brève. Il découvre les toiles fauves en 1905, hein, lors de ce salon d'automne, et pour lui, c'est un choc total. Et il va assimiler ses innovations picturales en compagnie de Auton-Frise, qu'on a vu précédemment, et en compagnie également de Raoul Dufy. Et ensemble, en fait, ils vont fonder le Cercle de l'art moderne du Havre. Ça se passe en 1906. Et en fait, ce sont les premiers artistes à divulguer les recherches fauves en province. Donc ils ont un rôle très important dans la propagation de ce mouvement dans le reste de la France. Et l'intrusion dans le cercle fauve de Braque, elle est très brève, mais elle va être très féconde. Braque, pendant cette courte période, va peindre beaucoup de toiles où, justement, il célèbre la toute-puissance de la couleur. Et j'ai trouvé les propos d'Anton Friese sur ce point, donc sur ce goût pour la couleur très momentané de Georges Braque. Donc je le cite. « Braque, qui vivait au Havre, vint me voir vers 1905. Son père le destinait à la décoration. Il se mit aussitôt en rapport avec Matisse et connut, sans recherche, la palette des fauves. N'ayant pas à déblayer le terrain comme ses aînés, Matisse, Derain, Braque s'initia immédiatement à nos travaux et apporta la neuve contribution de sa foi picturale ardente. Il apportait aussi un tempérament exubérant, avide de continuer la bataille auprès de nous, ses aînés. Je dis aînés car nous avions déjà 6 ou 7 ans d'essais, de combats, de salons, de décisions, de déblayages et de ruptures. Le jeune Braque, arrivé tard dans la bataille, était destiné à n'y point rester longtemps et pouvait se diriger vers de nouveaux concepts, devenir l'un des chefs de la nouvelle génération qui était la sienne. » En plus, c'est des propos qui sont très beaux et très émouvants et qui attestent bien l'amitié qui unissait les deux hommes. Alors, de Georges Braque, pour cette période fauve, je ne vous montrerai que le port de la Ciotat, donc toujours ce motif méditerranéen qui est omniprésent. C'est un tableau qui est peint donc en 1907 et qui est conservé aux États-Unis. Et on voit bien dans cette mosaïque de bateaux ce goût pour la couleur qu'on retrouve également dans le paysage urbain et dans le paysage campagnard maritime de l'arrière-plan. Au-delà le fauvisme, donc je l'ai dit, c'est un mouvement relativement court qui dure, allez, 2-3 ans maximum. Et le fer de lance de ces artistes, c'est donc l'exploitation de la couleur pure. Par la suite, on l'a vu avec Matisse, on l'a vu également avec Derain, toutes les recherches de ces peintres vont un peu abandonner cette omnipotence de la couleur pour se diriger vers la plasticité. Ils cherchent à réintégrer la ligne, le volume dans leurs œuvres. Je vous montrais tout à l'heure les baigneuses d'André Derain. C'est une toile assez symptomatique de ce changement d'esthétique. Le fauvisme va avoir un rôle quand même important, et je le disais tout à l'heure en introduction, il va avoir un rôle important notamment pour l'expressionnisme allemand. Il y a un lien très net entre les œuvres des fauves et les œuvres des expressionnistes. Le lien, c'est cette volonté de se libérer des conventions et d'accorder la primauté à l'inspiration et à la subjectivité. Et finalement, l'utilisation de la couleur, l'utilisation sans barrière, sans scrupule de la couleur, est tout entière au service de cette omnipotence de l'imagination et de la sensibilité. Et alors j'ai choisi justement une des toiles de ces expressionnistes, ça c'est Ernst Ludwig Kirchner, qui est un peintre allemand donc, l'œuvre s'intitule « Théâtre japonais » et on voit bien là encore une utilisation de la couleur qui n'est pas forcément fidèle à la réalité. Ces artistes cherchent avant tout à créer un choc, à créer une émotion et la couleur tout entière doit être au service de cette démarche-là. Autre mouvement d'avant-garde, le cubisme. Alors, bon, parmi les influences, évidemment, Paul Cézanne, ça je l'avais évoqué précédemment. Cézanne, au départ, c'est un peintre qui est considéré comme un impressionniste. Et puis, il va délaisser justement ce travail sur l'air, sur l'espace, pour s'engager dans une voie particulière, celle d'une simplification, d'une décomposition, d'une recomposition des formes et de l'espace. Et finalement, avec Cézanne, pour la première fois, le tableau va devenir une surface rythmée d'objets, de volumes géométriques. Et d'ailleurs, Cézanne a une phrase qui est restée assez célèbre, « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône ». Donc c'est assez emblématique de ses recherches. Le cubisme va naître sur ce terreau-là, très, très fécond de ses recherches cézanniennes, et s'inscrit d'emblée comme une rupture. C'est une rupture avec la conception de l'espace, je l'ai dit en introduction, il y a une multitude de points de vue, donc on rompt avec l'espace pictural hérité de la Renaissance, et puis c'est une rupture radicale avec les formes aussi. La réalité, elle est réduite à des formes et à des volumes géométriques. On s'intéresse plus forcément à la réalité telle qu'on la voit, mais plutôt à la réalité telle qu'on l'interprète et telle qu'on la recompose. Le cubisme, au départ, c'est un mouvement qui se veut très... très intellectuel, parce que justement c'est une démarche très cérébrale de décomposer et de recomposer les formes et l'espace. L'année emblématique, c'est 1907. Bon, bah d'abord parce que c'est l'année des Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais aussi et surtout parce que c'est l'année d'une vaste rétrospective consacrée à Paul Cézanne, au Salon d'automne, justement. Et là, désormais, les œuvres de Cézanne vont être divulguées de façon cohérente, homogène, à tous ces artistes-là. Et ça va être un véritable choc pour tous ces artistes du début du XXe. La leçon cézannienne va être une leçon qu'ils vont mûrir et qu'ils vont essayer de dépasser. Bon, Les Demoiselles d'Avignon, c'est un tableau qui est conservé à New York, c'est une toile qui en fait s'est fait progressivement. Et au fil des esquisses, au fil des ébauches, l'art de Picasso se radicalise. Les femmes, déjà, deviennent beaucoup plus géométriques, justement. Les visages sont de plus en plus stylisés, notamment ceux de la partie droite, qui sont hachurés et qui assemblent des formes géométriques tout à fait différentes. Et donc, au fur et à mesure de ces esquisses et de ces ébauches, l'art de Picasso se simplifie et se radicalise. Regardez également le fond. Au départ, c'était une simple tenture, et ça devient quelque chose de très géométrique, de très volumineux. Finalement, le seul élément classique, entre guillemets, dans cette toile, c'est la nature morte, qui a un motif extrêmement battu et rebattu dans la tradition picturale européenne. Le fait d'assembler ces nus très stylisés avec cette nature morte, déjà, c'était une révolution en soi, parce qu'il y avait cette confrontation entre la tradition et la modernité. Picasso, c'est un artiste qui naît en 1881, il meurt en 1973, donc c'est un artiste d'origine espagnole qui part à Paris dans un second temps, après avoir suivi l'enseignement de l'école des beaux-arts de Barcelone. Il arrive à Paris et au départ, il vit assez chichement, assez pauvrement. Le début du XXe siècle, c'est sa période classique, c'est les fameuses périodes bleues et la fameuse période bleue et la fameuse période rose. Bon, ça, c'est une toile assez emblématique du début du XXe chez Picasso, c'est son autoportrait. C'est un tableau qui est conservé à Paris, au musée Picasso. Et puis, dans les années qui suivent, Picasso cherche à renouveler son langage plastique et surtout, alors qu'émerge de façon tonitruante le fauvisme, il cherche à créer son propre vocabulaire, son propre langage plastique. Il cherche à faire quelque chose d'inédit et de spécifique. Picasso, il a une pléthore d'influences. Il passe des journées et des journées au Louvre. Il s'intéresse notamment à l'Antiquité et notamment à l'art cycladique. Les Cyclades, c'est un archipel d'îles vers la Grèce. Et ces statues cycladiques, c'est des statues qui ont pour particularité d'être extrêmement simples et stylisées. Et notamment notamment au niveau du visage, on voit que les yeux, la bouche manquent. Ce sont des surfaces extrêmement lisses, ovoïdes. Et le seul élément de relief, le seul élément qui vient rompre justement cette unicité, c'est le nez qui barre le visage. Et ça, Picasso s'en souviendra dans Les Demoiselles d'Avignon, mais même au-delà, dans les œuvres suivantes. Autre influence, celle des masques africains. Picasso, c'est aussi un collectionneur. On a des photographies de son atelier où on voit justement des masques africains qui sont accrochés sur les murs de son atelier. Et là aussi, dans la stylisation, dans le goût pour la géométrie de ces masques africains, on retrouve des influences qui vont marquer l'art de Picasso. Trois figures sous un arbre. Ça, c'est un tableau qui est conservé au musée Picasso également, à Paris. C'est un tableau réalisé entre 1907 et 1908. Et donc, on retrouve justement toutes ces influences dont je vous ai parlé précédemment, donc l'influence des statuettes cycladiques, l'influence des arts dits primitifs, et notamment des masques africains. Ici, on est véritablement dans une représentation s'émancipe totalement de la réalité. On retrouve ici aussi tous les tons prisés par Picasso durant sa période cubiste. Des tons très sourds, très atones, de brun, de gris. Et puis on retrouve aussi cette volonté de ne pas, de ne pas matérialiser Ah, je trouve plus mes mots. Bref, toutes ces hachures qui sont omniprésentes, qu'on avait vues dans ces deux femmes, dans les demoiselles d'Avignon, et qui, matérialisent la profondeur. Il n'y a plus d'effet de couleur chez Picasso. Il n'y a plus de camaïeu pour distinguer les volumes. Non, lui, il va distinguer les volumes par la décomposition et par les hachures. Donc ça, c'est une toile assez emblématique de cette démarche-là. Usine à Horta de Hébro. Ça, c'est un tableau qui est conservé en Russie, à Saint-Pétersbourg. Il est peint quelques années plus tard, en 1909, et c'est assez symptomatique de ses recherches picturales. En fait, la surface du tableau est découpée en facettes, donc ça accentue les effets de relief, et du coup, l'architecture industrielle, l'architecture de ces usines, a une présence saisissante. La forme, elle est réduite à l'essentiel. La végétation, notamment les palmiers à l'arrière-plan, est réduite à des volumes géométriques. Hein. Les troncs d'arbres ne sont que des cylindres. Les bâtiments aussi, hein, qui sont très cubiques pour le coup. Et on retrouve là encore aussi l'influence de Cézanne, notamment dans ses recherches sur le volume. Et justement, cette première période, on l'appelle le cubisme cézannien. Donc c'est dire l'héritage de Paul Cézanne. Alors on va plus loin dans la décomposition des formes, dans ce portrait d'Ambroise Vollard, qui est conservé également en Russie, à Moscou. Ambroise Vollard, c'était justement un de ces marchands d'art qui a eu un rôle très très important au niveau de ses avant-gardes. Ambroise Vollard, c'était le protecteur de Picasso. Hein. Dans ce portrait, qui est donc un thème assez traditionnel, on a quelque chose de très radical, puisque Picasso va décomposer petit à petit la figure humaine. Néanmoins, il y a encore des éléments reconnaissables, et notamment on reconnaît assez facilement le visage d'Ambroise Vollard. Hein. On reconnaît la calvitie, le nez large, la barbe. Donc pour les contemporains, le portrait était ressemblant, entre guillemets. Il était évident que c'était Ambroise Vollard qui ici était représenté. Néanmoins, on sent déjà qu'il y a une volonté de fragmenter davantage l'espace et les formes pour aboutir à une vision tout à fait inédite. Et en 1910, Picasso va encore plus loin dans le portrait de Kahnweiler, qui était lui aussi un grand marchand d'art et un grand collectionneur. Et là, c'est beaucoup plus difficile de reconnaître la figure humaine et de reconnaître en l'occurrence Kahnweiler. Ici, le visage, la stature du personnage se dilue totalement dans cette espèce de mosaïque de fragments géométriques. Et on retrouve là encore cette harmonie de ton gris, de ton brun, qui déroute là aussi le spectateur. Tout n'est qu'un camailleux de surface géométrique dans des tons de gris. Là, il n'y a que quelques éléments, qui sont reconnaissables. On reconnaît la chevelure et puis on reconnaît la main dans la partie inférieure. Mais on est quand même très très loin de la figure humaine telle qu'elle était représentée dans le tableau précédent. Et en fait, l'étape suivante, ça va être l'absence totale de figure. Ici, dans le guitariste, qui est conservé à Paris, au centre Pompidou, la figure humaine, elle est totalement absente. On arrive à la deviner grâce au titre, on arrive à la deviner grâce à cette espèce d'architecture de ligne verticale, donc on se doute plus ou moins qu'il s'agit d'un portrait. Néanmoins, la lisibilité de l'œuvre, elle est beaucoup plus difficile. Et sans le titre, est-ce qu'on saurait véritablement déterminer qu'il s'agit d'une personne? Rien n'est moins sûr. Nature morte à la chaise cannée. Alors ça, c'est un tableau qui est conservé au musée Picasso, à Paris. C'est un tableau qui est peint, assemblé, en 1912. En fait, c'est très nouveau ici parce qu'il y a l'intrusion du collage. Picasso incorpore dans la toile un fragment de toile cirée. Et donc c'est très inédit, hein, cette intrusion d'un objet manufacturé dans l'œuvre peinte de l'artiste. Finalement, toutes les recherches faites précédemment avaient conduit à un certain hermétisme, puisqu'on l'a vu, hein, le sujet initial était dissous dans l'œuvre. Et donc Picasso va essayer de réintroduire des éléments concrets. Alors ça passe par l'incorporation d'éléments manufacturés, là en l'occurrence la toile cirée, ça passe aussi par l'incorporation de lettres. Et ça va être un jeu auquel va se livrer à la fois Picasso, mais aussi Braque, dont tous les deux vont incorporer des lettres durant cette période-là. Et j'en ai fini avec Picasso parce que pour cette période cubiste, elle est relativement courte, et je voulais passer à Braque. Donc, on retrouve là encore le port de La Ciotat, donc cette influence fauve, qui a un rôle très important. Braque dira lui-même, je cite, « La peinture fauve m'avait impressionné parce qu'elle avait de nouveau, et cela me convenait. C'était une peinture très enthousiaste, et elle convenait à mon âge, j'avais 23 ans. Comme je n'aimais pas le romantisme, cette peinture physique me plaisait. Cela a duré le temps des choses nouvelles. J'ai compris que le paroxysme qu'il y avait en elle ne pouvait pas durer. Comment ? Quand je suis retournée pour la troisième fois dans le Midi, je me suis aperçue que l'exaltation qui m'avait remplie lors de mon premier séjour et que j'avais transmise à mes tableaux n'était pas la même. J'ai vu qu'il y avait autre chose. Et cette autre chose, ça va être cette recherche sur la déstructuration des formes et de l'espace. Et Braque va être très influencé par Cézanne, et d'ailleurs il revendique cet héritage-là. Je l'ai dit tout à l'heure, aux alentours de 1907, Cézanne est au centre de l'actualité artistique. Il y a des tas d'expositions qui font connaître l'ensemble des recherches artistiques du peintre, et ça va influencer considérablement ces artistes du début du XXe siècle. Et donc, Braque va chercher à suivre les traces de Cézanne. Ici, j'ai choisi un tableau de Paul Cézanne, c'est le Golfe de Marseille vu de l'Estac. C'est un tableau qui est réalisé à la fin du XIXe, il est conservé à Chicago, donc le paysage méditerranéen par excellence. Et c'est un tableau qui va influencer Braque. Et justement, la toile suivante, eh bien, c'est le port de l'Estac de Braque. Donc Braque cherche à suivre les traces de cet artiste, se rend à l'Estac, se rend dans les paysages que Cézanne avait l'habitude de fréquenter. En 1908, c'est la première exposition personnelle de Braque, chez Kahnweiler, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des œuvres de Braque avaient été refusées dans les expositions officielles, et notamment au Salon d'automne. Et donc, heureusement, il y a ces marchands d'art, comme Kahnweiler, qui vont donner une chance à tous ces artistes-là. Et Braque, notamment, n'a pas à souffrir de la condition de l'artiste maudit, parce que très tôt, il est coaché en quelque sorte par ses marchands d'art et par ses collectionneurs. Donc, Georges Braque expose à la galerie de Kahnweiler, et Louis Vossel visite l'exposition. On dresse un compte-rendu assez désagréable dans Gil Blas. Et ce qui frappe Louis Vossel à ce moment-là, c'est la géométrisation des formes. Voici ce que dit Louis Vossel. Monsieur Braque est un jeune homme fort audacieux. L'exemple déroutant de Picasso et de Derain l'a enhardi. Peut-être aussi le style de Cézanne et les ressouvenirs de l'art statique des Égyptiens l'obsèdent-ils outre mesure. Il construit des bonhommes métalliques, déformés, qui sont d'une simplification terrible. Il méprise la forme, réduit tout, site, figure, maison, à des schémas géométriques, à des cubes. Ne le raillons point, puisqu'il est de bonne foi, et attendons. Donc Louis Vossel, même s'il est assez désagréable sur certains points, reste tout de même nuancé, et pressent que Georges Braque a des choses à nous apprendre. Et quelques mois plus tard, pourtant, lors du Salon des Indépendants, Louis Vossel tombe nez à nez de nouveau avec des œuvres de Georges Braque et écrit, je le cite, « Je perds définitivement pied, c'est là de l'art canac, absolument, définitivement, inintelligible. » Donc on comprend ici le reproche en fait majeur que vont adresser ces critiques aux artistes cubistes, c'est ce manque de visibilité et ce manque d'intelligibilité. La critique de l'époque, et pour le public aussi, ces œuvres-là, ce sont des œuvres trop intellectuelles, trop cérébrales. Ce sont des œuvres qui ont perdu une certaine spontanéité. Et au départ, donc, toutes ces critiques reprochent ce travail intellectuel poussé jusqu'à son paroxysme. Et donc, tous ces critiques vont reprocher cette géométrisation générale des formes. Alors, bon, Maison à l'Estac est assez emblématique. Tout à l'heure, je vous montrais le port de l'Estac en 1906, qui était encore redevable de l'influence cézannienne et de l'influence fauve. Un an après, deux ans après, je ne sais plus compter, Maison à l'Estac, ce tableau-là qui est conservé à Berne, est là clairement cubiste. Clairement cubiste au niveau des formes. Toutes ces formes géométriques que sont ces maisons, et au niveau des couleurs aussi, toute cette prédominance de tons à tonnes, de vert, de marron et d'ocre. Le viaduc de l'Estac, c'est un tableau qui est conservé au Centre Pompidou, qui est peint également en 1908. Donc là encore, hein, on retrouve cette simplification des formes et on retrouve cette façon de peindre, hein, la hachure qui va justement donner le côté, qui va donner cet aspect de relief à ces toiles-là. Grand nu. Je disais tout à l'heure que Braque et Picasso ont engagé un dialogue artistique. Bon, bah là, quand on voit le grand nu de 1908 de Braque, on pense évidemment aux figures des demoiselles d'Avignon. Il y a cette même recherche géométrique. Hein. On a un nu très, très athlétique, très, très schématique. On a ce goût pour les couleurs sombres. Et puis, on a le côté très stylisé du visage qui évoque également l'œuvre de Picasso. Pont en Normandie, c'est un tableau qui est conservé aux États-Unis, à Chicago. Il est peint en 1909. Donc, on retrouve hein, toujours ces tons de marron, d'ocre, hein, qui sont vraiment une constante dans l'œuvre de Braque à cette époque. Violon et palette. Alors ça, c'est un tableau qui est conservé à New York. Il est peint en 1909. Et là, la sensation d'émiettement, elle est exaspérée ici. On reconnaît encore les formes. On discerne la partition. On discerne le violon. Néanmoins, tous les contours et toutes les formes s'amalgament. Il n'y a plus de distinguo entre l'arrière-plan, le premier plan, espace et volume, espace et forme s'amalgament jusqu'à se fondre. Les usines du Rio Tinto à l'Estac. C'est un tableau qui est conservé au centre Pompidou, qui est peint en 1910. Et là, justement, eh bien, ce paysage industriel est totalement méconnaissable. Les formes géométriques sont noyées dans cette atmosphère de ton brun et de ton gris. Le portugais. Tout à l'heure, j'évoquais dans La nature morte à la chaise cannée de Picasso cette intrusion des lettres. Bah, là aussi, Braque reprend cette leçon-là. Et dans le portugais, bah, justement, on discerne des lettres, on discerne des chiffres. Et il y a cette volonté d'opérer comme un jeu. Finalement, il y a un jeu scriptural qui se met en place et le spectateur, à l'aide de ces lettres, essaye de déchiffrer le rébus et essaye de donner un sens, un autre sens à ces toiles. Donc là, vraiment, Braque et Picasso, à ce moment-là, jouent beaucoup avec les lettres et avec les caractères en tout genre. Bon, sinon, au niveau du portrait de ce portugais, bah, là encore, hein, comme dans le portrait de Kahnweiler de Picasso, c'est très difficile de reconnaître la figure humaine. On la discerne avec cette ligne verticale, mais c'est tout de même très difficile de reconnaître cette figure. En 1911, se tient le Salon des Indépendants, et là, il y a des cubistes en masse qui exposent, et paradoxalement, Picasso et Braque sont absents. Bon, cette exposition du Salon des Indépendants est un scandale, hein, ça provoque les foudres de la critique, donc qui justement insiste à l'envie sur cette perte d'intelligibilité, de visibilité. Et un critique résume la chose devant donc la cohérence de ces toiles cubistes. Qu'est-ce qu'un cubiste? C'est un peintre de l'école Picasso-Braque. Et ce qui est intéressant, c'est que, je l'ai dit, Picasso et Braque sont absents de cette exposition. Néanmoins, clairement, ils sont les fondateurs, les initiateurs de ce mouvement. Donc, en 1911, quelques années seulement après les Demoiselles d'Avignon de Picasso, le mouvement prend corps, il existe véritablement, et les deux pères fondateurs sont unanimement connus et reconnus, même s'ils ne sont pas forcément appréciés. Et alors, justement, à l'occasion de ce salon d'automne, il y a un artiste cubiste qui s'exprime, il s'agit d'Albert Glaise, on va en parler un peu plus précisément tout à l'heure, et voici ce qu'il écrit. Quelle journée mémorable que celle du vernissage de l'automne 1911. La plupart des journaux nous houspillaient avec une violence peu commune. La critique perdait toute retenue et les invectives pleuvaient. On nous accusait des pires intentions, de chercher le scandale, de nous moquer du public, de nous vouloir enrichir vite au détriment des snobs. On nous chargeait de tous les péchés d'Israël, on nous vouait aux gémonies. Le grand grief qu'on nous faisait était celui de l'illisibilité. On prétendait ne rien voir dans nos tableaux. Et non seulement des philistins, mais des peintres de valeur, mi-sincèrement, mi-stratégiquement. Ce reproche d'illisibilité fut peut-être ce qui nous valut l'excommunication majeure de la part de la critique et du public. Donc, Glaise analyse quand même assez précisément les reproches qui sont faits qui sont faits par la critique au cubiste. Et en même temps, il explique justement très précisément et très sincèrement cette espèce de cabale qu'on menait contre eux. Alors, autre artiste cubiste, c'est Fernand Léger. Fernand Léger, c'est un peintre qui naît en 1881, il meurt en 1955. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Léger, c'est qu'au départ, il a une éducation architecturale. Il suit des cours d'architecture à Caen. Et puis ensuite, dans un second temps, il part à Paris. Et là, il s'initie à la peinture, à l'Académie Julian, là encore. Son atelier est dans le quartier de Montparnasse. Il fréquente d'autres artistes comme Robert Delaunay, comme Marc Chagall. Et en 1907, comme la plupart de ces artistes, il assiste à cette rétrospective consacrée à Cézanne. Bon, bref, donc Fernand Léger assiste à cette rétrospective de Paul Cézanne et là c'est un choc. C'est un choc parce que ça va l'influencer profondément dans sa façon de voir les choses, de voir l'espace, et il va géométriser littéralement ces sujets. Bon alors, ça s'est éteint, mais tout à l'heure, il y avait un magnifique tableau, c'était celui de la couseuse, qui est un tableau donc cubiste de Fernand Léger. C'est un tableau qui est conservé au Centre Pompidou, qui est réalisé entre 1909 et 1910. Et c'est un tableau qui... c'est un tableau. Finalement, la couseuse, elle est complètement. Elle est totalement robotique. C'est un assemblage de volumes, de cylindres, de cubes. Et puis, ça reprend aussi toutes les coloris cubistes. Alors, on le reverra tout à l'heure, Inch'Allah. Ça reprend tous les coloris cubistes, et notamment ces tons. Ces tons de brun, de gris et de vert. Par la suite, Fernand Léger, il va s'éloigner de cette influence cubiste et on aura un art très, très léché, même s'il y aura toujours cette inspiration mécanique. Alors, autre toile cubiste, Nu dans la forêt, c'est un tableau qui est peint entre 1909 et 1910. Et ben, c'est un tableau qui est assez emblématique des critiques formulées à l'encontre du cubisme. Parce que là, mine de rien, si on n'avait pas le titre, ça serait assez difficile de distinguer de prime abord qu'il s'agit de Nu dans une forêt. Parce que finalement, c'est un assemblage un peu incohérent de volumes cubiques, de volumes cylindriques. Il y a toujours ces tons très terreux. Autre œuvre cubiste, entre guillemets, La Noce, qui est conservée au Centre Pompidou et qui est peinte entre 1910 et 1911. Et je disais par la suite... Ah mince, je ne l'ai pas. Je disais par la suite que... Bon, alors voilà, bon, bref. Donc après, Fernand Léger, fait des paysages et fait des figures qui reprennent ce côté très géométrique, mais c'est beaucoup plus léché, et surtout, il y a une intrusion de la couleur. Voilà, mais bon, je ne suis pas très crédible sans mes images, du coup. Bon, allez, on va improviser. On va conclure, grosso modo. J'avais encore des tas de trucs à vous montrer, mais bref. La dernière image que vous avez vue, c'était un tableau de Juan Gris, qui est un artiste espagnol, et qui va être très influencé par le cubisme, lui aussi. Et le tableau que je voulais vous montrer, c'était un tableau intitulé « Hommage à Picasso ». En fait, c'était un portrait de Picasso, donc là aussi déstructuré, avec des tons terreux, des tons de gris. Et en fait, ce qui était intéressant avec Juan Gris, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il se réfugie dans le sud de la France, à Collioure, et il fréquente Matisse. Et au contact de Matisse, Juan Gris va s'initier à la couleur et va faire une sorte de cubisme coloré. Et la dernière toile que je voulais vous montrer de Juan Gris, parce qu'après il y avait d'autres artistes dont je voulais vous parler, mais bon, c'est pas grave. La dernière toile que je voulais vous montrer de Juan Gris, bah justement, c'était une œuvre à la fois cubiste et à la fois colorée. C'est une œuvre qui tranchait beaucoup avec tous les tableaux de Picasso ou de Braque. Et donc, du coup, mon cours est un peu amputé. Je vais passer à la conclusion. La conclusion, alors ça aussi j'en parle pas, début du XXe siècle, ces mouvements d'avant-garde, on continuera la séance la semaine prochaine, si on a des images, et ce que je voulais marquer, c'était que les, Le cubisme et le fauvisme, ce sont deux mouvements donc, qui s'inscrivent dans un long processus de recréation de l'art. Hein. On a vu tout à l'heure toutes les grandes leçons des artistes du XIXe siècle, hein, les impressionnistes, les néo-impressionnistes. Cézanne, évidemment, qui va avoir un rôle majeur. Ces deux mouvements, également, qui outrepassent un peu plus les limites. Il y a un renversement radical avec le fauvisme et le cubisme. Un renversement du point de vue des couleurs, un renversement du point de vue des formes, de l'espace. Et mine de rien, ces deux mouvements, non seulement ils révolutionnent toute la tradition picturale et artistique des siècles précédents, mais surtout ils préparent l'avènement d'autres mouvements, et notamment des mouvements comme l'abstraction, d'un point de vue général. À partir de la libération de la couleur, il y a des artistes qui vont aboutir à l'abstraction, ça va être le cas par exemple de Kandinsky en Russie, et à partir de la déconstruction de la forme de l'espace menée par les cubistes, d'autres artistes vont également aboutir à une certaine abstraction. Ça va être le cas de Fernand Léger. Alors j'avais des magnifiques images à vous montrer. Malheureusement, je ne vous les montrerai pas. C'est le cas de Delaunay également, Robert Delaunay, et puis sa femme, Sonia Delaunay. Et ailleurs en Europe, ça va être le cas de Piet Mondrian, aux Pays-Bas, qui a une période au départ cubiste, donc avec tout le langage plastique des cubistes, hein, la géométrisation des formes, ses tons gris, sourd, brun, et qui par la suite va aboutir à un art radicalement différent et qui le mène donc à l'abstraction. Voilà, c'était un peu folklorique hein, cette fin de cours, j'espère que ça aura été quand même compréhensible. Voilà.
C'est pas grave, c'est l'ordinateur qui vient de...